c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Et c'est l'heure de jouer. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'être le chef d'un royaume. Bon, le problème, hein, c'est que vous êtes deux et qu'il n'y aura qu'un seul vainqueur. Vont s'opposer donc deux duchés, celui de Terici et celui de Valados. Alors après It's a Wonderful World, Frédéric Guérard revient avec It's a Wonderful Kingdom, un jeu pour deux joueurs, cette fois-ci édité une nouvelle fois par la boîte de jeux et Ori Games, illustré par Anthony Wolf. Alors It's a Wonderful Kingdom est un jeu stratégique où il faudra développer vos ressources et vous poser une question majeure, faut-il produire ou recycler ? Il y aura plusieurs étapes dans ce jeu, la phase de choix, de planification, de production et de combat. Il y a également trois modules indépendants qui permettra de rendre les parties différentes à chaque fois. Mais alors comment on joue ? Bah, à chaque tour, les joueurs vont récupérer 7 cartes dans leur pioche ainsi qu'une carte calamité qui donnera des points négatifs en fin de partie. Alors commence donc la phase de choix. Vous allez devoir proposer à votre adversaire deux cartes à récupérer au centre du plateau. Il y a deux zones, vous pouvez mettre les deux dans la même zone ou une dans chaque. Vous pouvez même mettre deux fois pendant cette phase des cartes face cachée, histoire pourquoi pas de refiler votre calamité. Alors on est donc pas sur du draft, mais sur une nouvelle mécanique qu'on appelle le split and trap, diviser et piéger. Votre adversaire fera de même, quatre fois. Au final, chaque joueur aura récupéré des cartes, mais pas forcément le même nombre. Les cartes récupérées, vous les mettez dans votre zone de sélection. Alors bien entendu, les cartes cachées, vous allez les retourner pour voir quel cadeau vous a fait votre adversaire. Il a peut-être bluffé, qui sait ? Alors on entre dans la deuxième phase du jeu, celle de la planification. Chaque joueur va décider quelle carte il envoie en construction et quelle carte il recycle. Alors s'il recycle la carte, il la défausse, mais en échange, il va récupérer l'une des ressources, le bonus indiqué en haut à droite de la carte. Certaines cartes trésors qui ne peuvent pas être construites vont même vous donner deux ressources. Alors cette ressource devra immédiatement être posée sur l'une des cartes mises en construction. Si vous ne pouvez pas vous poser votre ressource, dans ces cas-là, dans la zone d'alchimie de la carte de votre duché, on va y revenir. Une fois que la carte est entièrement construite, c'est-à-dire que l'on a posé toutes les ressources indiquées sur la carte, elle passe, elle, immédiatement en phase de production. Vous la serrez sous votre carte duché. Alors après le choix et la planification vient donc celle de la production qui se déroulera en 4 étapes car il y a 4 types de ressources. Les matériaux, la population, l'or et l'exploration. Toutes vos cartes en production et votre duché vont vous indiquer des ressources que vous produisez. Vous en prenez donc autant sur le plateau que ceux qu'indiquent vos cartes. Et ces ressources, vous les mettez soit sur vos cartes qui sont encore en construction, soit dans la zone d'alchimie de votre duché. Alors exemple, je produis 3 matériaux, je prends 3 petits cubes gris que je place sur mes cartes en zone de construction ou dans mon duché. Mon adversaire fait pareil, lui il produit 6 ressources matériaux, dans ce cas il prend 6 ressources sur le plateau. Mais ça ne s'arrête pas là, il obtient le bonus de suprématie, c'est-à-dire qu'il va pouvoir récupérer un jeton soldat dans sa zone d'entraînement sur le plateau. S'il y en a déjà un de présent de son côté, dans ce cas-là, le gars il s'est bien entraîné et peut venir rejoindre vos troupes. Il vous sera utile dans la phase combat, on va y revenir également. Alors petite précision, à partir du moment où 5 ressources sont dans votre zone d'alchimie, vous pouvez les transformer en une ressource appelée le Crystallium, qui remplacera n'importe quelle ressource. Alors c'est pratique pour compléter une carte en construction. Alors on enchaîne avec une nouvelle production de ressources, population, or et exploration. On fera ça 4 fois, ensuite on additionne les points. Certaines cartes permettent des combos selon le nombre de telles cartes présentes dans la construction. Il y a aussi les points de victoire négatifs à retirer comme les calamités. Et celui qui a le plus de points, le nouveau chef du royaume. Sauf que tout à l'heure, je vous ai parlé de modules. Vous devez en intégrer un à chaque partie, qui va compliquer les règles de base du jeu. Et surtout, qui va vous donner l'utilité de vos jetons combattants que vous avez récupérés à chaque phase de production en remportant la suprématie. Le module le plus simple est celui de la quête. Pour remporter la partie, il faut avoir rempli la dernière étape de la quête, sachant que les étapes d'avant sont facultatives. En général, il faut payer une ressource pour en gagner une autre, rien de bien compliqué, en plus par rapport aux règles de base. Tout est indiqué d'ailleurs sur votre plateau de quête. Le module conseiller, va vous donner plus de pouvoir grâce à des cartes conseillées que vous intégrez dans votre pioche, mais vous en choisirez un parmi deux au départ. Ils permettent notamment d'améliorer votre production avec quelques ressources supplémentaires et peuvent aussi servir dans différentes phases de jeu. Et puis les cartes conseillées qui seront posées dans la zone du conseil vous amènent en plus un soldat, donc c'est plutôt sympa. Et puis le module menace, le dernier est certainement le plus compliqué, mais c'est celui qui procure le plus d'interactivité. Il remplace les cartes calamités par des menaces, et vous verrez, c'est moins cool, car si les calamités vous enlèvent quelques points de victoire, les menaces peuvent carrément vous bloquer le jeu. Alors c'est le cas de la menace géant de givre, qui vous bloquera votre production, mais il y a aussi les voleurs, les ombres, eux recyclent vos cartes, mais pour donner les ressources à votre adversaire, et puis il y a aussi les rats géants avec leurs vermines qui se multiplient. Alors la seule façon de vous débarrasser de vos menaces, c'est d'envoyer vos soldats au combat, d'où l'intérêt de remporter des suprématies lors de la production pour récupérer des soldats. Alors vous êtes obligé d'ajouter l'un des modules pour jouer à It's a Wonderful Kingdom. Il existe aussi un mode solo, je vous laisserai découvrir, mais une chose est sûre, Frédéric Guérard nous sort une nouvelle petite pépite. Ces modules nous permettent une grande rejouabilité. Alors personnellement, j'aime beaucoup jouer avec le module des menaces et celle des ombres. Il amène encore plus d'interactions. Et puis, avec cette nouvelle mécanique de piéger les cartes, il y a une dose de bluff. Autant de mécaniques qui font que ce jeu est certainement l'un des meilleurs à deux. Et je n'avais pas eu autant de sensations depuis Seven Wonders Duel. Alors justement, quand on parle de jeu à deux, on va retrouver Vianney d'ici quelques minutes du magasin Terre de Jeux à Rennes pour la première catégorie des Cellulites d'Or, la catégorie duo. C'est juste après John Summit.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et c'est le moment de parler des Cellulites d'Or aujourd'hui avec Vianney. Bonjour Vianney.
Salut Mathieu, salut tout le monde, salut à toutes et tous.
Bon, merci beaucoup Vianney, parce que normalement c'était Ludo, mais Ludo est un peu souffrant, donc tu l'as remplacé, c'est très sympa.
Bon, écoute, on se soutient dans l'équipe de Cellulite.
C'est ça, exactement. Du coup, on te retrouvera aussi demain.
Ouais.
Alors aujourd'hui, c'est la catégorie duo. Est-ce qu'on peut rappeler les trois jeux nommés pour cette catégorie duo?
Alors les trois jeux, c'était Botanique, Rest in Peace et Sobek. Dans l'ordre alphabétique, comme ça, on essaye de pas dévoiler encore, tu vois,
bah
on
oui,
va dire dans quelques
bien
minutes.
Bien sûr, du suspense. Alors, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le concept des trois jeux et puis peut-être les points positifs de qu'est-ce qui est bien dans ce jeu?
Ouais, alors sachant qu'on n'en a pas débriefé en équipe avant, ça va être plus compliqué pour moi de faire du point positif, point négatif, parce que ça va être très subjectif. Mais je peux essayer. Grégoire Larget, Franck Critin et Sébastien Pochon ont donc commis Botanique, ouais. Donc à plusieurs cerveaux. C'est un jeu à plusieurs cerveaux. C'est un jeu, du coup, brièvement, donc fait pour deux, puisqu'on est dans la catégorie duo, c'est que des jeux faits pour deux, se constitue en fait un petit jeu de tuiles et de connexion de tuiles qui fera penser à, je sais pas, vaguement, on pourrait parler de Carcassonne pour prendre un exemple très connu,
ouais. D'un
côté, je pose des tuiles pour former mon petit puzzle. La particularité étant que chaque joueur fait son puzzle dans son coin, on n'interagit pas sur le puzzle de l'autre, et que l'interaction va se situer sur, principalement, les tuiles que l'on va prendre, avec un petit côté, je prends cette tuile, donc l'adversaire ne pourra pas l'avoir, je lui laisse tel choix, et on essaye de résoudre notre petit casse-tête en posant des tuiles qui ont des couleurs bien spécifiques, qui ont des chemins bien spécifiques, des connexions bien spécifiques, et on va essayer de réussir à faire un maximum de points avec une soupe de points que je vais pas détailler là parce qu'elle est relativement complexe.
C'est clair.
Mais en gros, l'idée, c'est je positionne mes tuiles d'une manière stratégique et intelligente en essayant d'anticiper les faits et gestes de mon adversaire. Et pour ceux qui aiment se faire fumer le cerveau, c'est un excellent jeu.
Ouais.
Par contre, ça fume. Normalement, les oreilles fument au bout d'un moment.
C'est ça. Et on fait des plantes ou des légumes même.
Ouais. C'est ça.
Donc ça, c'est Botanique.
Botanique, à trois cerveaux donc. Et ensuite, dans l'ordre alphabétique, on avait Rest in Peace,
ouais.
De Fabien Gridel, commis à un seul cerveau du coup.
Ouais.
Il y a toujours plein d'autres gens qui travaillent
Rest
sur des jeux.
Rest in Peace, c'est RIP, quoi. Ça fait penser un peu à la mort, non?
Ouais, exactement. On est sur un jeu que la thématique et l'univers visuel, c'est très bien mis en visuel d'ailleurs par Anna Itzek,
ouais.
Font penser, moi je trouve, à un esprit un peu famille Adams glaucasse. On se retrouve à incarner des familles de fantômes qui vont essayer de hanter diverses demeures. Et donc, il va falloir mieux hanter que l'adversaire, puisque ça se joue encore une fois en 1 contre 1. L'idée, elle est similaire pour moi en sensation à un jeu de poker, survitaminé, très très dynamique, très court. L'idée, en gros, ça va être d'enchérir sur chacune des demeures une par une que l'on va pouvoir hanter. L'astuce du jeu résidant dans le fait que celui qui remporte la demeure, et donc potentiellement au fur et à mesure que la partie avance, va vers la victoire, laisse à son adversaire une munition de la monnaie supplémentaire pour les futures manches.
Ouais.
Donc c'est un jeu où il va falloir savoir se coucher et abandonner au moment opportun pour pouvoir mieux derrière remporter les demeures qui nous intéressent.
C'est ça, exactement.
C'est très fin, c'est très très riche dans les possibilités. C'est un jeu extrêmement interactif. C'est à déconseiller aux gens qui n'aiment pas les jeux où tu peux dégommer l'adversaire sur 2-3 bons coups.
Ouais.
C'est très très fort pour ça. C'est typiquement pas mon genre de jeu à moi, même si je trouve ça brillantissime. C'est trop violent pour moi. Il y a un côté, oula, ah oui, tu m'as défoncé ou je t'ai défoncé. Mais c'est vraiment, dans le genre, c'est une petite merveille. Donc c'est pour ça qu'il est dans cette sélection.
Exactement. Alors on rappelle que cette sélection, c'est par rapport aux jeux qui ont été présentés dans ces ludiques du 1er janvier donc 2021 au 31 janvier. Au 31 décembre. 31 décembre. Tu vois, je me perds.
Ceci dit, au 31 janvier, ça a l'air de marcher aussi.
Oui,
mais,
oui.
Bon, ouais. mais ça, c'était pas le cas.
C'était pas le cas.
Et donc le dernier, il s'agit de Sobek, un jeu de Bruno Catala et Sébastien Pochon. Qu'on retrouve à la baguette une seconde fois.
Mais oui, Sébastien
Pochon,
dis donc.
C'est déjà la baguette de Botanique. Et oui, il faut croire que l'équipe de CEDIC est majoritairement fan de Sébastien Pochon.
Je sais pas.
Du coup, Sobek, c'est une réadaptation donc, d'un très vieux jeu de Bruno Catala, je crois, seul à l'époque, si je dis pas de bêtises.
Alors, il y avait Sébastien Pochon aussi, mais Sébastien Pochon avait sa boîte d'édition, je crois, à l'époque.
C'est ça. Je crois qu'il n'était pas crédité parce que je sais plus, en tout cas. Mais bref, en gros, ils travaillaient déjà ensemble puisque Sébastien Pochon était l'éditeur de Sobek. Et du coup, ils ont retravaillé à deux pour faire cette version deux joueurs, bien des années plus tard, puisque Sobek est un jeu qui a déjà connu pas mal d'évolutions et d'éditions différentes. Il y a eu Oliver Twist, notamment, qui était une refonte de Sobek déjà.
Ouais.
Et donc là, c'est une version deux joueurs. Donc c'est un jeu de stratégie qu'on pourrait classer dans la famille des jeux de stratégie un peu abstraits. C'est-à-dire des jeux où il y a des règles très simples et avec quasiment pas de hasard ou très peu de hasard, vraiment une vraie projection sur je vais faire ça pour avoir un coup d'avance sur mon adversaire et lui couper l'herbe sous le pied. Dans Sobek, on se retrouve avec un plateau quadrillé 5x5 si je dis pas de bêtises, ou 6x6, avec sur lequel il y a des tuiles qui vont être des tuiles de marchandises que l'on va essayer de récolter, de faire des collections de ces marchandises. Plus on en a, mieux c'est, et on va essayer de les échanger ensuite, de les vendre dans un second temps pour faire des points. La subtilité résidant dans deux points différents. Le premier truc, c'est que si on veut chercher une tuile bien spécifique, eh ben ça va peut-être nous coûter très cher.
Ouais.
Ça va peut-être nous obliger à perdre des points en fin de partie. C'est une mécanique de corruption. Si je prends le premier truc qu'on me donne et que je choisis pas, bah ça me coûte pas de points. Mais si je veux avoir un peu plus de choix, bah ça va me coûter plus cher. Donc ça, c'est assez malin. On va évidemment essayer de faire en sorte que son adversaire se retrouve face à ce genre de dilemme. Et le deuxième point, c'est que un peu à la manière d'un quarto, pour reprendre un jeu du même type qui est très connu, à chaque fois que je joue, je vais choisir un petit peu les options que je donne à mon adversaire.
Ouais,
en fonction de ce que j'ai fait, mon adversaire va pas avoir les mêmes options. Donc parfois, je vais faire un coup qui est pas fou pour moi, mais qui met l'adversaire dans une très mauvaise position à son tour d'après, dans le but justement de me retrouver à mieux avoir un meilleur coup derrière, etc. etc. Encore une fois, esprit jeu abstrait, jeu d'échecs, j'essaye de toujours avoir un coup d'avance sur mon adversaire pour lui couper l'herbe sous le pied.
Exactement, et c'est super bien édité aussi. Hein.
Oui, alors sûrement. J'ai moins de recul d'analyse sur la qualité éditoriale de jeu, mais en tout cas, c'est très joli. Et j'ai rien à dire en défaut éditorial.
Alors, Vianney, attention, petite musique pour annoncer le grand gagnant, le lauréat des catégories. Alors, Vianney, le gagnant est
Sobek, deux joueurs.
Bravo.
De Sébastien Pochon et Bruno Catala.
On applaudit très fort. Sobek, deux joueurs, voilà. Pour toi, d'après toi, pourquoi il a gagné?
Je pense parce que ça fait... Enfin, déjà parce que je pense que le jeu est vraiment... comme je disais, c'est un classique, c'est une mécanique qui a déjà fait ses preuves. C'est vraiment une très très bonne mécanique. Il n'y a rien à dire. Le jeu est huilé. Je trouve que très souvent Bruno Catala dans son travail de jeu à deux est assez brillantissime dans le côté jeu cadré et très... Il n'y a pas un pet de règle qui sort, il n'y a pas une règle qui est là où on comprend pas pourquoi, le jeu est d'une efficacité sans nom quoi. Et Sébastien Pochon a cette capacité aussi à faire la même chose, donc pour moi le travail des deux en même temps est vraiment brillant et il y a ce côté jeu dans l'air du temps d'aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche, un jeu qui dure une vingtaine de minutes, qui est très intéressant dans la réflexion qu'il propose... qui a un design graphique très sympathique avec un espèce de mix cartoon BD étonnant, enfin qu'on n'attend pas sur un jeu de ce type-là.
C'est Nayad qui a fait les illustrations.
C'est Nayad qui a les illustrations. Ouais. Et bah ouais, c'est un très bon illustrateur aussi puisque c'est l'illustrateur qui a déjà fait parler de lui plein de fois sur plein de jeux différents. Commencé avec Tokaido à l'époque, si ma mémoire est bonne, mais
oui, exact.
Ça fait partie des jeux qui ont vraiment marqué l'année dernière, je pense. Enfin, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire ça. Ça fait vraiment partie des très bons jeux à deux et très accessibles.
Eh ben, merci beaucoup, Vianney. On va se retrouver demain pour une autre catégorie. Alors là, ça sera la catégorie des jeux d'ambiance. Les jeux d'ambiance où on a trois jeux qui sont nommés. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ?
Pas l'ordre alphabétique, attends. Vas-y, fais-le parce que là, sinon, je vais me foirer.
Alors,
je vais annoncer un ordre. On a complètement biaisé.
On a l'hippogramme. On a. Donc c'est un jeu de lettres. On a aussi Salt Lover qui est aussi finalement un jeu de lettres et un jeu de mots. Et Twin It version Japan.
Ouais, exact.
Qui est un jeu frénétique.
Ouais, pour le moins, ouais. On peut pas dire que ce soit pas un jeu frénétique, ouais, c'est clair.
Eh ben, on en parle tout ça demain à la même heure.
Avec plaisir.
Salut Vianney.
Salut, belle journée.
À demain.